France Musique.
Musique et moi.
Annick Cogent,
Priscille Lafitte, France Musique.
Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. René Char.
Des marais devenus l'hymne des femmes chanté par les Brigitte et tout un chœur de femmes qui a été entonné lors des obsèques de Gisèle Halimi le 6 août dernier au cimetière du Père Lachaise. On y a aussi entendu du Bach, des chansons de Ferrat et d'Edith Piaf aussi. Vous y étiez, Annick Cogent ?
Oui, bien sûr, j'étais. Et c'est drôle parce que ce chant des femmes n'était pas prévu dans la cérémonie officielle. Et c'est une femme qui était au bout de la pièce dans laquelle tout le monde était rassemblé au moment où tout le monde allait se disperser, qui a commencé à entonner ça a cappella. Et des tas de femmes se sont mises à chanter très fortement avec le poing levé. Et c'était un peu disruptif, aurait dit Gisèle. Et en même temps, c'était magnifique. Ça avait du sens, parce que toutes ces femmes qui étaient là, qui avaient accompagné Gisèle, des connues et des pas connues, vibraient dans le même élan et donnaient de la force à cette hymne qui mériterait d'en avoir un peu plus que les Brigitte, d'ailleurs, d'une certaine façon. Mais qui est un très beau chant qui a été composé dans les années 70-71, un peu autour du MLF. Je crois que c'était une soirée avec beaucoup d'improvisation et aucune de ces femmes ne pensait que ce chant survivrait et rassemblerait tant de monde. Mais c'est vrai que maintenant, il est chanté facilement dans des rassemblements, dans des manifestations.
Même dans des stades de foot.
Exactement, au moment de la Coupe du Monde féminine de foot en 2019.
Et c'est très émouvant de voir...
Ouais, c'est vibrant, ça dit plein de choses. Nous, les femmes debout, les femmes, femmes esclaves, femmes en colère, femmes humiliées, asservies. Il y a beaucoup de choses à dire. Rassemblons-nous, reconnaissons-nous. On nous a diviser, reconnaissons notre force. Et c'est vrai que c'est exactement ce que disait Gisèle Halimi. Soyons solidaires et soyons sœurs.
Annick Cogent, vous êtes journaliste, grand reporter au Monde, et votre approche à vous de ce métier, c'est la rencontre, c'est l'interview, c'est l'observation, c'est le portrait. Mmh. Et vous signez un livre d'entretiens poignant qui vient de paraître chez Grasset, Une farouche liberté, des entretiens avec la féministe et avocate Gisèle Halimi. Vous parcourez ensemble toute une vie guidée par le désir de liberté, l'évidence de la sororité, le besoin de défendre des convictions féministes contre la peine de mort, pour l'avortement, pour la reconnaissance du viol comme crime. Et c'est très émouvant de voir défiler les moments clés de la vie de Gisèle Halimi, depuis son enfance en Tunisie, jusqu'aux nombreux procès dont elle a plaidé la cause, des cas de torture par l'armée française en Algérie, un couple lesbien violé par des hommes dans une calanque près de Marseille, le procès d'une femme qui a avorté. Les paroles de Gisèle Halimi frappent par leur combativité, leur audace, leur clairvoyance. Annick Cogent, la citation de René Char est la clé d'entrée dans ce livre d'entretien et dans cette émission. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Est-ce que le monde s'est habitué à regarder Gisèle Halimi?
Écoutez, oui, puisque je m'aperçois qu'elle semble être très consensuelle ces temps-ci. C'est elle qui unifie tous les féministes et je vois des tas de gens se réclamer de Gisèle Halimi. Les mêmes qui, il y a quelques années, la conspuaient ou s'en méfiaient terriblement. Donc je me réjouis qu'il y ait une évolution. Tant mieux, la société bouge en effet, les thèmes féministes s'imposent peu à peu. Je peux que m'en réjouir, mais c'est évident qu'au départ, c'était pas du tout le cas. Elle a entrepris des combats incroyablement courageux, et je dis courageux dans tous les sens du terme. Ça réclamait d'elle un courage physique, un courage intellectuel. Lorsqu'elle est allée en Algérie, elle a pris tous les risques, réellement. Elle a été menacée de mort, elle a été foutue en prison, elle a été insultée, elle a eu des menaces de mort, elle recevait des petits cercueils, des menaces sur ses enfants, etc. Donc c'était très compliqué. Et puis plus tard également, elle a été conspuée pour les grands procès qui lui tenaient tellement à cœur. Seulement elle parlait toujours avec charme, sans élever la voix, avec conviction, avec des arguments très forts, avec le droit qui était son instrument. Et je pense que petit à petit, justement, ça a porté.
Gisèle Halimi était l'invitée sur France Musique de Claude Maupomé en 1976 pour un concert égoïste. Une émission dont Musique et moi est en fait l'héritière en quelque sorte. Et Gisèle Halimi a demandé à écouter le Requiem de Mozart parce qu'elle l'avait chanté au lycée.
Ce professeur que j'aimais beaucoup avait décidé, avec ce que nous étions, c'était pas évidemment... du très grand art, notre classe de, je crois, de seconde au lycée à l'époque, de faire une espèce de chorale. Et elle nous avait appris une partie de ce requiem, et je chantais là-dedans. Et alors, ça a été la première grande, enfin, pour moi, la grande chose de ma vie, c'est-à-dire, pour une fois, la musique, non seulement j'étais là à l'écouter, mais j'étais l'actrice, quoi. Je me suis mise à chanter, et quoi Mozart, et quoi le Requiem, et quoi, ça aussi, ça compte beaucoup, moi qui étais vraiment de culture judéo-arabe, chanter le Requiem à la cathédrale de Carthage. C'était, comment vous dire, un espèce de coup de poing à ce destin qu'on m'avait préparé, de fille qui devait ne jamais rien apprendre, trouver un mari qui gagne un peu d'argent et faire le plus possible d'enfants.
Et vous l'avez ressenti comme tel à cette époque-là déjà ?
J'ai ressenti une drôle de chose dans cette cathédrale. D'abord, j'ai ressenti ce que tout le monde ressent quand on chante le Requiem dans une cathédrale. Croyant ou pas, bon, aujourd'hui je suis athée, mais croyant ou pas, il y a une communion, il y a quelque chose. On essaie de chanter bien, on surveille un peu son voisin et sa voisine. Puis il y a cette résonance que vous connaissez. J'avais été très, très impressionnée. Et puis c'était ma première prouesse. Ça a été une très grande joie. Puis alors, si, c'était le très grand choc, parce qu'en rentrant, j'ai dit, j'ai chanté le Requiem de Mozart chez moi. Et on m'a dit oui, enfin.
Ah bon?
Quoi, oui, qu'est-ce que c'est?
Thank you.
le concert égoïste de Gisèle Halimi, qui avait demandé à écouter cette introïte du Requiem de Mozart, dirigée par Daniel Barenboim en 1971. Gisèle Halimi parlait souvent de son enfance, du contexte qui a nourri son sentiment d'injustice. Elle vous avait parlé de cette chorale, de ce Requiem, Annick Cojon ?
Non, pourtant je le savais. Ben, je ne me rappelle pas d'une conversation particulière là-dessus. Mais c'est amusant quand elle, j'imagine sa joie, parce que c'était une petite fille ardente, c'était une petite fille gourmande, qui voulait apprendre, qui voulait tous les livres, qui lisait la nuit en cachette, qui avait un appétit fou pour les choses de la vie, pour l'enseignement et pour tout, à vrai dire. Et dont la famille réagissait mal, d'ailleurs, et que la famille ne comprenait pas, et récusait en tant que petite fille curieuse, d'une certaine façon, puisque quand elle rentrait de l'école, et là, elle le dit, quand j'arrive... ayant chanté le Requiem de Mozart, qu'elle revient à la maison, on lui dit indifférence totale. C'est exactement quand elle rentrait de l'école également et qu'elle disait « Je suis première, maman !» Et que sa mère lui disait « Allez, passe à table !» Très brusquement, parce qu'on n'aimait pas qu'elle soit gourmande
de connaissances,
etc. Elle n'était qu'une fille, et la connaissance, ça devait être pour les garçons, et pas pour une petite fille. On n'avait pas envie qu'elle aille en sixième. L'argent de l'école aurait été beaucoup plus utile, disait sa mère, pour préparer sa dot. Et on s'attendait à ce qu'elle se marie, évidemment, très très vite, avec un garçon qu'elle n'aurait pas choisi. Donc c'est vrai qu'elle a dû lutter toute son enfance pour se débrouiller, pour acquérir elle-même les connaissances, y compris en musique, puisqu'elle a pris aussi quelques cours de piano d'ailleurs, parce qu'une prof s'attachait à elle. Et vous voyez cette petite fille tellement ardente et tellement intéressante et pleine de vie. Donc elle a toujours lutté contre sa famille, contre son milieu, elle a toujours voulu s'extraire. Et donc j'imagine effectivement la griserie même de chanter dans une chorale, et puis le rejet familial après. Et après elle s'est cultivée justement, elle a tout appris, y compris la musique.
Et y compris le droit aussi, elle a fait
ses études. Oui, le droit, bien sûr.
Ce qui frappe, c'est l'obsession de justice qui anime Gisèle Halimi. Jusqu'à prendre des risques pour sa propre vie en Algérie, est-ce que vous pouvez raconter dans quelles circonstances elle a décidé d'être une des avocates phares, une des avocates du FLN algérien?
Elle était avocate très jeune, à 22 ans. Elle a fait ses études à Paris, elle est revenue, elle a prêté serment et très vite, on lui a donné des cas. La Tunisie était en ébullition, l'Algérie aussi, bien sûr, mais d'abord c'était dans son pays, donc elle a commencé à défendre des gens qui militaient pour l'indépendance et des insoumis, et puis très vite il y a eu la même chose en Algérie, et effectivement elle était en sympathie avec la cause des indépendantistes, et très vite elle est devenue en Algérie l'avocat de champ du FLN, de militants, et donc considérée par beaucoup de Français comme la traîtresse par excellente. Elle a été conspuée et traitée de tous les noms, et pour elle, les différents cas, et notamment celui de Djamila Boupacha, donc qui était cette militante qu'elle a défendue ardemment, réunissait tout ce en quoi elle croyait, tout ce qu'elle voulait défendre. Une femme, parce que la cause des femmes l'intéressait depuis le début, depuis toute petite. Elle refusait les inégalités, en tout cas entre les garçons et les filles. La torture, puisque cette femme qu'elle a défendue avait été atrocement torturée, violée. Donc le viol, sur lequel elle a beaucoup travaillé également. Et puis c'était une femme qui avait au fond pris des positions dans l'arène publique, et ça aussi elle défendait. Donc finalement le cas de Djamila Boupacha était un peu la quintessence de tout ce que voulait faire Gisèle et de tous les combats qu'elle voulait mener. Donc oui, elle a pris les risques. Oui, elle a passé une partie de sa vie, de sa jeune vie professionnelle, à faire la navette entre Paris et Alger. Et ça lui vaudra à la fois des succès, puisque son nom, effectivement, a été connu beaucoup à ce moment-là, grâce aussi à Simone de Beauvoir, etc. Et puis beaucoup de difficultés.
Alors Gisèle Halimi est ensuite revenue en Algérie des années plus tard. Ouais. Et elle raconte dans cette archive du concert égoïste dans quelles circonstances elle écoute la première symphonie de Gustav Mahler.
Cette symphonie en particulier, elle a longtemps fait ma joie et mon bonheur. Je me souviens d'un été 68, alors d'abord c'était 68, donc l'été qui suivait mes 68, et où pour la première fois après la guerre d'Algérie, Je connaissais de l'Algérie, vous savez, les prisons, les tribunaux, les centres, les tortures, et c'est tout, au fond. Pas le temps de voir l'Algérie autrement, ni la possibilité. Et ça, c'était la première fois où j'allais en vacances en Algérie. J'étais au bord de la mer, j'étais avec mes enfants, j'avais un merveilleux endroit avec des tas de pièces, et alors j'avais plein d'amis à qui j'avais dit, si vous voulez venir vous baigner, venez. Ce qui fait que j'avais beaucoup de candidats, de volontaires. Et il y avait ce disque, ce titan dans l'air, qu'on mettait, je crois, presque constamment, qui alternait avec quelques autres disques. Et le sentiment que j'ai à moi, c'est que c'était que physiquement, presque, ça collait un petit peu à tout ce qu'on ressentait. D'abord, quelque chose de nouveau dans ce pays dans lequel je me trouvais, qui est quand même qui correspond à une partie importante, non seulement longue de ma vie, parce que c'est plusieurs années, mais importante parce que j'y ai laissé un peu ma liberté, mais c'était un engagement très total de voir que tout ça se réveillait. Ensuite, c'était le réveil dans la joie, un peu dans la fête, dans l'expression. On était tout le temps en maillot de bain ou nu, puisqu'au bord de la mer, et on mettait alors au maximum, plein gaz, cette symphonie de malheur que nous entendions tous, et on sentait que c'était à la fois quelque chose, enfin, contre tout ce qu'on avait voulu combattre, contre le crime, le crime contre l'ordre, contre la loi, et en plus, c'était un hymne, enfin, moi, je le recevais en tout cas comme un hymne à la joie, cette symphonie de malheur.
Thank you.
L'orchestre Les Siècles, dirigé par François-Xavier Roth, dans la première symphonie de Gustave Mahler, La Titan. En Algérie, Gisèle Halimi va directement plaider auprès du président français la grâce de plusieurs condamnés à mort. Vous parliez de la jeune Algérienne Djamila Boupacha. Déjà auprès de René Coty, puis auprès du général de Gaulle à l'Élysée. Quelle femme est-ce que vous imaginez dans ces moments-là? Qu'est-ce que pouvait vivre Gisèle Halimi?
C'est incroyable quand même ce qui reposait sur ses épaules, et elle en avait cette conscience aiguë. Toute jeune femme, elle se trouve d'ailleurs être la première femme à aller plaider la grâce présidentielle, le fait du prince quand même. Elle revient d'Algérie pour frapper à la porte de l'Élysée et essayer de convaincre. Elle se trouve d'abord devant un Coty vieillard qui cherche ses médicaments et qui ne l'écoute pas, qui connaît même pas les dossiers d'ailleurs. Et ça la rend dingue. La tête d'un homme risque de tomber et c'est un vieillard qui s'embrouille dans ses papiers. Donc je pense qu'elle était éminemment consciente de sa responsabilité, écrasée même. Je ne devrais pas dire écrasée parce que cette responsabilité était lourde et en même temps, elle en faisait quelque chose qui l'aiguillait, qui lui donnait beaucoup de force. Elle trouvait les arguments et d'ailleurs, la plupart du temps, pas toujours hélas, elle a gagné sa cause et on l'appelait le lendemain ou quelques jours après pour lui dire voilà le résultat, le verdict, enfin la grâce est obtenue. Elle sauvait des têtes, elle sauvait des gens, elle évitait qu'un homme soit coupé en deux. C'est comme ça qu'elle parlait de la guillotine et qu'elle parlait de la peine de mort, ce procédé barbare contre lequel elle s'est battue longtemps. Elle est moins connue pour ce combat-là, mais Dieu sait si elle l'a animé aussi avec Badinter et d'autres avocats valeureux. Donc c'est vrai qu'on l'imagine là de toutes ses forces, cherchant ses mots, ne dormant pas. La veille du jour où elle allait plaider la cause, il est même arrivé une fois qu'elle est allée trois fois la même journée à l'Élysée plaider la cause de trois personnes donc qui risquaient d'être tuées.
Gisèle Halimi chérissait particulièrement un texte, une histoire d'amour que Jean Genet a écrit et par laquelle il convainc aussi le condamné à mort.
Oui.
Je trouve que Jean Genet et Hélène Martin plaident beaucoup mieux que Badinter ou moi-même pourrions le faire contre la peine de mort. Parce que
beaucoup mieux, non, je ne crois pas, mais enfin, ils plaident avec leur moyen.
Je trouve que c'est opposé à ce point ce qu'est la vie, la mort, à cette abominable cérémonie expiatoire qu'est la guillotine. Genet le dit et Hélène Martin le chante d'une manière extraordinaire. Je veux dire, il y a tout ce qui est l'amour, bien sûr, c'est un chant d'amour, mais il y a le panthéisme, même il y a un fond de panthéisme dans ça. Tant qu'il y a la peine de mort en France, moi je prétends que tant qu'il y a la peine de mort en France, eh bien, la France ne peut pas encore se dire civilisée.
Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou, que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh, viens mon beau soleil, oh, viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer et des prés l'herbe noire. Accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh, viens mon ciel de rose, oh ma corbeille blonde. Visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalades mort. Mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, viens sur ma bouche, amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs, descends, marche léger. Vole dans l'escalier, plus souple qu'un berger. Plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. On traverse les murs, s'il le faut, marche au bord des toits. Des océans, couvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière. Mais viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort.
Le condamné à mort de Jean Genet, chanté par Hélène Martin.
France Musique.
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Je conseille à nos auditeurs et auditrices l'écoute de ces archives de Gisèle Halimi qui datent de 1976, ces concerts égoïstes qui ont été diffusés dernièrement dans le cadre des trésors de France Musique de Françoise Montaille. C'est donc à la réécoute sur notre site. Annick Cogent est l'invitée de Musique et moi ce matin. Gisèle Halimi parlait de son amour pour la symphonie fantastique aussi dans ses archives, pour la sonate Arpeggione de Schubert, et puis de son amour pour l'opéra qu'elle aime écouter les yeux fermés, sans mise en scène. C'est un amour que vous avez en commun, Annick Cogent?
Écoutez, je n'écoute plus d'opéra. J'ai perdu brusquement mes parents il y a quelques années, enfin en 2013. Ça finit par s'éloigner, mais ça me semble encore très récent. Et ça a été tellement soudain, notamment le départ de ma mère, à laquelle je ne m'attendais tellement pas. J'étais en reportage très loin. Donc voilà, j'étais pas là à ce moment-là et elle est partie comme ça en quelques heures après m'avoir laissé un petit message d'ailleurs parce que je la croyais très en forme. Dans quelques heures, on se retrouve, ma chérie. Et je vais pas dire que ça m'a fâchée avec la musique classique et avec l'opéra, mais ce sont des portes que je n'ouvre plus depuis 7 ans. Voilà, j'y reviendrai peut-être. Peut-être pas.
Vous y êtes ce matin?
Oui, alors vous me contraignez à un drôle d'exercice. Effectivement, ça ravive des souvenirs. Je ne sais pas pourquoi j'ai coupé instantanément les portes de la musique classique. Est-ce que c'est de la nostalgie? Est-ce que c'est la peur justement d'ouvrir sur certaines portes cadenassées et de ne pas vouloir fouiller dans des zones difficiles? Je sais pas, c'est tellement... La musique classique m'a portée, je l'écoutais beaucoup avec mes parents, je l'écoutais beaucoup avec ma mère qui chantait tout le temps, qui avait une vénération pour la Callas, qui la mettait tout le temps dans le salon, sur la chaîne IFI, ou bien en voiture, sa petite bagnole, elle conduisait très vite et elle mettait à fond ses cassettes, la Callas, et ça lui faisait venir les larmes aux yeux tout le temps. Et j'aimais pas voir ma mère avec les larmes aux yeux, donc je disais, mais arrête, maman, arrête, c'est trop. Et pas du tout, me disait-elle, ça me fait tellement plaisir. Donc elle était transportée, ce que je n'étais pas complètement, mais de la voir comme ça, elle me communiquait malgré toute son émotion. Et puis un jour quand même, nous sommes allés voir un spectacle à Saint-Pétersbourg et nous sommes allés au théâtre Mariinsky et voir Norma. Et c'était juste dingue. Là, c'est la première fois, je crois, où j'ai eu une vraie grande émotion de l'opéra, où j'ai compris, où j'ai touché un tout petit peu. J'ai touché du doigt ce que ça pouvait faire et comment ça pouvait vous transporter dans une dimension que je ne sais pas comment décrire et que, au fond, quelques musiciens que j'ai quelquefois interviewés m'ont un peu décrite. Et là, j'ai eu l'impression d'approcher. J'ai eu effectivement les larmes aux yeux et j'ai compris que j'accédais à quelque chose de rare.
Thank you.
1960, Maria Callas chante Norma à la Scala de Milan sous la direction de Tullio Serafine. Annick Cogent, vous aimez surtout la personne qui porte une voix. Vous avez rencontré d'autres grandes voix dans ce monde, notamment celle de Cecilia Bartoli.
Ah oui.
Qui vous a parlé de sa voix et oui. qui vous a dit à
celle-là.
Propos de Norma qu'on pleure tout le temps avec Norma, alors qu'on en connaît l'intrigue, le drame, jusqu'à la moindre phrase. Chaque fois, Norma secoue, bouleverse, fait accéder à une gamme d'émotions les plus intimes qui soient. Et Cecilia Bartoli, pour faire advenir aussi les émotions, comment s'y prend-elle? Est-ce que vous avez perçu du personnage Bartoli?
C'est un vrai joli personnage, Cecilia Bartoli. Elle est tellement joyeuse, ardente, volubile, généreuse, drôle, passionnée. Enfin, donc l'interviewer est toujours un vrai plaisir. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je faisais un truc sur les parents. Et elle m'avait parlé de sa mère. Elle l'avait fait venir, d'ailleurs. Je voyais la complicité entre la mère et la fille, qui était absolument admirable, qui était très réjouissante d'ailleurs, parce qu'avec Cecilia tout est toujours joyeux jusqu'au moment où elle parle effectivement de la voix et de ces zones dont, que j'évoquais tout à l'heure, mais dans lesquelles on accède rarement, mais parfois, et dit-elle, qui sont la preuve de l'existence de Dieu, alors ce qui me laisse toujours un peu sceptique quand même, mais elle en est absolument certaine, c'est la preuve. Ce que peut faire en nous la musique est la preuve de l'existence de Dieu, de l'existence de quelque chose de mystérieux qui dépasse en tout cas l'être humain. Elle, en tout cas, c'était merveilleux de lui faire raconter son histoire et comment elle vibre, etc. D'ailleurs, on le sent quand elle est sur une scène. J'ai vu une fois au théâtre des Champs-Élysées, elle tapait du pied sur la scène parce qu'elle était à un moment donné exaltée par les vivas et elle entonnait quelque chose qu'on lui avait réclamé. Mais elle raconte aussi comment petite fille, non, elle pensait pas devenir chanteuse, en tout cas pas chanteuse d'opéra. Ses parents l'étaient, c'était leur truc à eux. Et elle voulait vraiment faire autre chose. Et puis très habilement, sa maman l'a entraînée au piano un jour de pluie en lui disant « Allez, viens faire quelques exercices. » « Oh non !» disait la petite fille. Et puis finalement, elle était sidérée de ce qui sortait de sa gorge, disait-elle, les quelques notes qu'elle a fait, et puis c'est revenu quelques jours après, encore un petit peu plus d'exercice, et finalement elle a eu la passion d'améliorer cette voix qui la surprenait et dont elle a compris que c'était un trésor merveilleux. Alors ça demandait beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, c'est devenu sa vie, mais c'est effectivement ravissant, je dirais, la découverte par une chanteuse de ce don. Qu'est-ce que le don? Et pourquoi nous est-il offert? Et qu'en faire? Comment le transformer et l'offrir aux autres?
Est-ce qu'elle vous a parlé de cet air de Handel, ce fameux air, la ciala spina, colli la rosa? La
oui.
Slipine cueille la rose.
Bah, elle disait surtout que c'était sa philosophie au fond personnelle était directement liée à cet air de Handel, la slipine cueille la rose. Elle disait, je fais ce choix parce que la tristesse affleure. Elle affleure de plus en plus souvent, disait-elle, avec l'âge. Pourtant, je parlais de son caractère joyeux. Mais il y a toujours des zones un peu plus fragiles quand on creuse. Et des souvenirs de moments heureux, de moments disparus. Et dans les moments de tristesse, disait-elle, ben nous, les musiciens, on a cette chance folle d'avoir la musique.
C'est une battante comme Gisèle Halimi, Cecilia Bartoli.
Oui, je pense que oui. Je pense que c'est un caractère. Je pense qu'elle a eu une enfance tellement plus douce que Gisèle Halimi. La révolte et les batailles de Gisèle Halimi ont quand même été ancrées dans l'enfance dans laquelle effectivement il y a eu un manque de tendresse de la part de sa mère, puisqu'à 60 ans elle se trouvait en face de sa mère qui en avait à peu près 20 de plus, et elle lui demandait encore, la maman était pourtant à l'hôpital, lui demandait « Pourquoi maman tu ne m'as pas aimée ?» C'était encore une douleur et c'était encore une perplexité de Gisèle même à 60 ans. Donc il y a une enfance difficile, compliquée et surtout basée sur la révolte, ce qui n'est pas le cas de Cecilia, qui est prête davantage à embrasser la vie et en rire, je crois. Malgré tout, ce sont deux battantes, oui.
Cecilia Bartoli dans l'air du plaisir tiré d'Il Trionfo del Tempo de Handel. C'est un enregistrement en public qui date de 1998. Annick Cojan est l'invitée de Musique et moi ce matin. Annick Cojan, vous avez reçu le prix Albert Londres en 1996 pour une série de portraits réalisés aux États-Unis en Europe, les mémoires de la Shoah. Et au fur et à mesure de votre carrière au monde, vous constituez un album photo peuplé de personnages qui font l'histoire. Beaucoup de femmes dans cette galerie que vous constituez avec votre plume, Cecilia Bartoli, dont on venait de parler, dernièrement Laura Adler, les caissières pendant le confinement, Gloria Steinem, figure américaine du féminisme, Isabelle Autissier. Ces pensées, c'est voulu, c'est assumé, le féminisme, dans votre pratique du journalisme?
Oui, très tranquillement, oui, je crois. Je me dis maintenant... Oh, je l'ai toujours dit, je crois, féministe, je le ressens peut-être plus fortement. C'est venu aussi au fil de mes voyages et de constater la situation des femmes et le malheur, dirait Gisèle, de n'être femme dans la plupart des pays du monde. Oui, bien sûr, lorsque l'on va en Afghanistan, en Libye, où j'ai beaucoup enquêté, ou dans d'autres pays, Pakistan,
c'est terrible,
Inde,
ce que vous avez
etc.
découvert en Libye, oui.
C'est épouvantable, les viols de guerre, les viols par Kadhafi, et la situation, la détresse des femmes, la façon dont elles sont maltraitées. Le fait que dans la plupart des pays du monde, c'est juste pas de bol de naître femme. Voilà, ça veut dire qu'on sera moins nourrie, tout à la base, moins éduquée, qu'on sera mariée très vite, même enfant, qu'on n'aura pas le choix, qu'on sera de toute façon tabassée, vraisemblablement, probablement violée, etc., etc. En tout cas, ce sont des vies d'humiliation dans laquelle, évidemment, les femmes tentent de trouver des compensations, des joies, etc., parce qu'elles sont fortes. Qu'elles ont souvent des tempéraments incroyables, de résilience aussi. Mais en même temps, la vie est très, très rude pour les femmes et c'est insupportable de penser que c'est encore le cas réellement en 2020 et encore une fois dans la plupart des pays. Alors sous nos latitudes, ça a évidemment évolué grâce à des pionnières et à des battantes comme Gisèle Halimi, Simone Veil et d'autres, pour parler de nos héroïnes récentes. Mais c'est vrai que ça reste une révolte. Et donc, en tout cas, moi, je fais pas un journalisme de combat, mais je choisis quand même les gens à qui je vais donner la parole. Et tant qu'à faire, puisque l'on observe que dans les médias, le temps de parole donné aux femmes en général est du quart par rapport aux trois quarts, si vous voulez, donner aux hommes, y compris dans les grands médias, y compris dans le service public, et y compris dans les journaux comme Le Monde, par exemple. Les hommes ont beaucoup plus la parole.
Donc, à mon petit niveau... Il faut défaire quelques automatismes pour imposer la parole de femme à la une du monde, par exemple.
Bien sûr, je pense qu'il y a une vraie volonté, une prise de conscience qui est extrêmement récente dans la tête, je pense, de mes directeurs. Mais il suffit de regarder les statistiques. Et là, maintenant, on compte. Et c'est très important de compter. Oui, quel espace, quel chiffre, combien de femmes ont eu droit à la parole, effectivement, à la une du journal ou dans nos colonnes. Et on s'aperçoit qu'encore, c'est extrêmement déséquilibré. Donc, il faut qu'il y ait une volonté, réellement, de rectifier les choses. Et moi, à mon petit niveau, eh bien, écoutez, quand je suis sur un théâtre de reportage, que ce soit une révolution, un fait divers ou une manifestation, je ne sais pas, n'importe quoi, j'essaie systématiquement de donner la parole à des femmes, pas plus qu'aux hommes, mais en tout cas j'essaie de le faire et dans la série que je fais, je ne serais pas arrivée là si, donc c'est un rendez-vous de longues interviews, et bien là oui, délibérément, j'essaie de rencontrer davantage de femmes, en rencontrant moi davantage, je ne fais que rééquilibrer et remettre un équilibre qui n'existerait pas sinon. Et puis vous savez, elles ont été tellement longtemps invisibles, on leur a volé, c'est vrai, une partie de leurs histoires, de leur histoire, que c'est très important de leur donner la parole. En plus, elles ne la prennent pas si facilement. C'est compliqué. Elles ont toujours une question des doutes sur leur légitimité à parler, à s'exprimer. Donc, effectivement, je force un peu le mouvement et ça me fait très plaisir parce qu'elles me bluffent à chaque fois.
Et vous avez aussi donné la parole aux hommes, évidemment.
Bien sûr.
Et notamment aux grands Stislav Rostropovitch.
Oh, quelle joie.
Vous avez le chic pour aller chercher ce moment précis où l'histoire s'est faite. Vous aimez connaître les détails et vous avez rencontré Rostropovitch qui vous raconte, vous allez nous le dire après, cet instant où il a joué la troisième suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach devant le mur de Berlin. En voici la sarabande.
Thank you.
La sarabande de la suite pour violoncelle numéro 3 en ut majeur BWV 1009 de Jean-Sébastien Bach par Mstislav Rostropovitch.
France Musique.
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Annick Cojan, le violoncelliste Rostropovitch vous a fait le récit quelques années plus tard, à Bakou, je crois, ouais, de ce jour de novembre 1989 quand il a joué cette troisième suite de Bach, dehors, devant le mur de Berlin. Et ce qui me frappe dans son récit, c'est que Rostropovitch recherchait un moment d'intimité dans cet instant.
Oui, alors évidemment, il a été tout de suite reconnu, il y a eu une photo, alors beaucoup, certains ont douté de ce moment d'intimité en se disant quand même, ils se doutaient bien qu'en se posant au pied du mur, il allait quand même attirer les regards et l'attention. Peut-être, le maître était aussi un farceur, mais réellement, c'est vrai, ce moment était fondamental pour lui. Quand il revoyait la photo, d'ailleurs on le voit, le violoncelle devant lui bien sûr, et jouant cette sarabande, il disait « il y a toute ma vie dans ce cliché ». Ce jour de novembre célébrait évidemment la réunification des deux Allemagnes, mais bien plus que ça, c'était la réunification des deux parties de sa vie. D'un côté, il y avait l'Est, évidemment, avec ses racines, ses parents, son enfance à Bakou, en Azerbaïdjan, son passé, le début de sa gloire, et puis la rupture, et puis de l'autre côté, il y avait l'Ouest, il y avait l'exil, il y avait le travail, évidemment, tout ce qu'il avait fait. Je crois qu'il s'est exilé en 78. Donc c'est vrai que tout d'un coup, les deux parties de sa vie se trouvaient réconciliées d'une certaine façon, et qu'il pouvait imaginer repartir et arpenter à nouveau ses terres. L'exil avait été quelque chose de terrible pour lui, l'exil, parce que il l'avait choisi, au fond, en décidant de soutenir Solzhenitsyn, d'être fidèle à leur amitié. Il l'avait hébergé pendant 5 ans, et puis il avait fait des lettres aux journaux pour dire tout ce qu'il pensait, pour l'appuyer. Et puis ça avait été le début de la fin. Il avait été banni, renvoyé du Bolchoï. Sa femme, Galina, n'avait plus aucun engagement, etc. Donc ils avaient été contraints de partir. Enfin, ils ont pu partir, et surtout, on ne les a plus du tout laissés revenir. Donc
il a été déçu de sa nationalité.
Oui, et c'était une rupture terrible pour lui, chez lui, à Paris. Dans son appartement, je me rappelle, tout était russe, la décoration était russe, il y avait des œufs de Fabergé, etc. Enfin bref, il y avait tout son environnement qu'il maintenait, sa culture slave si importante. Et quand il m'en avait parlé, effectivement, c'était des années après, mais il était dans Bakou, il était reçu là comme un grand maître et comme un héros national. Et quelle ironie, parce qu'effectivement, l'exil pour lui avait été redoutable.
Et il avait joué cette sarabande en la mémoire de tous ceux qui sont tombés en franchissant le mur.
Oui.
Et vous cherchez à comprendre, Annick Cojan, ces moments où la musique sublime la grande histoire. Mmh. Vous avez rencontré le chef Ricardo Muti, qui vous a raconté ce fameux soir du 12 mars 2011, quand il a dirigé Nabucco de Verdi à l'Opéra de Rome. C'était un événement national pour célébrer le 150e anniversaire de l'unité italienne. On écoute et vous allez nous raconter. Donc on entend le cœur des esclaves, Vapensiero,
C'était
il en a beaucoup de Verdi.
Un morceau extraordinaire et qui, dans le cœur des Italiens, veut dire beaucoup de choses, qui a été presque perçu comme un hymne
officieux, bien sûr. Oui.
Et puis, il y a beaucoup de bruit.
Si, io sono d'accordo sul Viva l'Italia.
Voilà. Muti prend la parole, ce qui est incroyable. Les gens sont en train de réclamer bis, 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 et on ne bise pas. Un opéra, ça n'a pas de sens, mais ils sont une tension du public.
Io non ho 30 anni, e quindi la mia vita l'ho fatta.
Ma il décide de prendre la parole, ce qui est dingue.
Silvio Berlusconi est dans la salle.
Oui.
Et le président italien.
Le président italien et les gens détestent Berlusconi dans cette enceinte, réellement. Ils lui en veulent d'attenter à la culture dont on coupe les budgets régulièrement. Le maire de Rome a parlé un tout petit peu avant pour dire nous sommes en grand danger, la culture est en danger. Donc tout le monde ressent ça comme un moment très grave et Muti, qui ne voulait pas au départ pisser, évidemment, le cœur des esclaves, ça ne se fait pas. Il est de l'école de Toscanini. Mais perçoit toute la tension du public qui a crié « Viva Italia !» etc. Et donc il dit « Ok, je vous ai entendu. On va bisser ce cœur des esclaves qui parle à notre âme d'Italien. » Et puis il allait lancer le cœur et puis il dit « On va le faire, alors il faut une intention particulière parce que la culture est en danger, etc. » Il s'explique, ce qui est un moment inouï, parce que vraiment, c'est un moment où tout bascule. Je le fais ou je le fais pas. Et là, vraiment, il s'est dit, c'est le moment essentiel dans ma vie. Il avait vraiment l'impression de... Voilà. Je l'écoute en même temps que je vous parle, parce que c'était... Quand il m'en parlait, il avait à nouveau les larmes aux yeux, comme les gens l'ont eu. Et quand il a lancé le cœur des esclaves, il voyait bien que les chanteurs avaient eux aussi les larmes aux yeux, et quand tout le monde a repris, il a demandé à un moment donné que tout le monde chante avec les chanteurs sur scène, qui se sont levés les uns après les autres. Et sur la, comme le concert était filmé...
Par Arte.
Par Arte. Et donc il se disait, il faut pas que je sois grotesque non plus, il faut pas abîmer l'œuvre. Si tout le monde se lève et chante en même temps, ça risque d'être une cacophonie terrible. Donc il avait un peu peur de ça. Et en fait, ça a été magnifique. Et quand la caméra balaye les visages, balaye la scène, et qu'on voit les visages, et qu'on voit le cœur des esclaves, les chanteurs chanter les uns après les autres, et puis après, on voit les larmes monter dans leurs yeux, on voit, et à la fin d'ailleurs, on les voit tous s'épauler, s'embrasser, etc. C'est un moment. Moi, j'ai vu ça sur YouTube. Après, je ne l'ai pas vu en direct, mais j'en étais moi-même bouleversée. Je pense que c'est un des grands moments de l'opéra où on voit comment la musique peut rassembler, en effet, et exprimer, porter collectivement des espoirs, des revendications et de grands messages.
Le public est debout, là.
Le public est debout, chante la main sur le cœur. Il y en a qui vont même après crier « Muti, sénateur à vie !» Il éclate de rire encore en pensant à ça. On en faisait un héros. Mais c'est vrai qu'il a su saisir, à un moment donné, l'émotion, que c'était un peu risqué. Il risquait pas la peine de mort, bien sûr, mais il risquait un moment de cacophonie un peu ridicule. Et non, il a su sentir ce qui se passait derrière son dos. C'était pas évident de sentir ce qui se passait dans la salle. Et en même temps rebondir. Et c'est magnifique, ce cœur des esclaves qui est, disait-il, l'ADN des Italiens.
Vapensiero, chanté par tout le public de l'Opéra de Rome, ce fameux soir du 12 mars 2011, sous la direction de Riccardo Muti. Et tous les Italiens connaissent les paroles de ce chœur des esclaves. Oui. Un autre personnage d'opéra italien que vous vous cherchez à décrire, un monument italien, c'est Luciano Pavarotti.
Ah oui, là aussi, quel personnage. Je ne l'ai pas rencontré, je l'ai vu sur scène, je ne l'ai pas rencontré. Mais figurez-vous, c'est vrai que j'étais au journal Le Monde le 6 septembre 2007, quand est tombée la dépêche annonçant son décès. Et j'ai tout de suite eu envie d'aller à Modène, ce qui était son endroit, l'endroit où il vivait, l'endroit où il était né. C'était vraiment l'enfant du pays, c'était le fils du boulanger. Et je me doutais qu'il y aurait quelque chose et j'ai eu très vite envie. Donc j'ai pris tout de suite l'avion pour Modène et je suis arrivée la veille de ses obsèques. Dans une ville qui était bouleversée, qui ne parlait que de ça, c'était un événement national en Italie. Sur la place de la cathédrale, il y avait des écrans géants où on voyait Pavarotti chanter en boucle. On entendait la bohème, on entendait tous les rôles, Turandot, évidemment, Caruso, qui était lui aussi un enfant de Modène d'ailleurs. Et puis, je me préparais à rentrer dans la cathédrale, je parlais avec quelqu'un, il y avait des barrières, il y avait tout un chemin, parce que dans la journée, il y avait une foule, les gens rendaient hommage, ils voulaient entrer dans cette cathédrale, et donc je suis rentrée, le soir tombait, la lumière était rose, c'était splendide, et il y avait donc ce chant qu'on entendait sur la place. Et puis, le temps de m'habituer à la pénombre de la cathédrale, je me suis retrouvée devant le cercueil de Pavarotti, et je ne m'y attendais tellement pas. Et il était là, dans son habit de lumière, je dirais, il était dans son smoking, son frac, le smoking des grands soirs, il avait un plastron, les cheveux, les sourcils, la barbe était noire, il était aminci, bien sûr, et il tenait en main un petit chapelet de perles et son foulard blanc. Et c'était tellement incroyable de se trouver au pied du maestro. C'était impressionnant et en même temps c'était que ça. C'était tout ça et c'était que ça. Il se présentait modestement au fond aux gens du pays qui pouvaient tous venir le voir. Et en parlant ensuite avec les gens, ils avaient tous des souvenirs avec Pavarotti. L'un me disait, ma petite fille est à l'école avec sa fille qui avait 4 ans à ce moment-là. Quelqu'un d'autre disait, vous savez qu'il a chanté avec son père le jour de mon mariage parce que j'ai épousé un boulanger, me disait une femme. Effectivement, c'était le fils boulanger qui lui-même chantait merveilleusement, donc il faisait des joutes de chant avec son père. Et le lendemain, lors des obsèques, où il y avait foule, il y avait plus de 100 000 personnes qui étaient réunies sur la place et dans la cathédrale, évidemment, des gens étaient venus du monde entier. Ça s'est passé en 48 heures, donc d'autres auraient voulu venir, mais n'ont pas pu. Mais il y avait Bono, il y avait Andrea Botticelli, et puis il y avait aussi d'autres chanteurs, musiciens que je ne connaissais pas, des cinéastes, il y avait l'archevêque, il y avait des prêtres qui étaient venus de partout, il y avait un message du pape, enfin c'était juste incroyable. Et là, à un moment donné, on a entendu, et là beaucoup de gens pleuraient, effectivement un enregistrement de Pavarotti avec son père, le boulanger. qui chantaient tous les deux dans cette cathédrale. Et au moment où le corps est sorti, où le cercueil est sorti, il y a la patrouille italienne, la patrouille acrobatique italienne qui est passée au-dessus de la cathédrale et qui a laissé comme ça des nuages de vert, blanc, les couleurs de l'Italie, du drapeau italien. Et la foule applaudissait. Et c'était un moment extraordinaire, là. Le départ du maestro qui avait tant donné à sa ville, effectivement, qui était resté fidèle à sa ville et qui lui aussi incarnait tout le peuple italien.
Questa quella per me pari sono a cantare, tre d'intorno, d'intorno mi vedo, del mio cuore l'impero non cedo, meglio ad una che ad altre beltà. La costoro avvenenza è qual dono di quel fato le infiora la vita. So di questa mi torna gradita, forse un'altra, forse un'altra, domani lo sarà un'altra. Costanza tiranna del cuore detestiamo quel morbo crudele. So chi vuole si servi fedele, non va a mormolo se non v'è libertà. De mariti il geloso furore, degli amanti le strane e derido, anco d'arco di cent'occhi di sfido, se mi punge una qualche beltà, se mi punge una qualche beltà.
Partite, crudele,
seguire lo sposo, e forza c'è prova.
Madonna luminosa, in cuore te trasto, ma sole brillare, per voi qui ciascuno dovrà. Voi già possente la fiamma d'amore, inebria con cui distrugge il mio cuore.
La
fiamma d'amore, inebria con cui distrugge il mio cuore, per voi già possente.
C'était Luciano Pavarotti dans un extrait de Rigoletto de Verdi, Questa o quella, que ce soit celle-ci ou une autre, elles sont toutes à mes pieds. C'est l'heure du Duc de Mantoue. Séducteur, prédateur. Il y aurait tout dans ce livret de Rigoletto pour une mise en scène extrêmement féministe autour de la figure de Gilda.
Il faudrait beaucoup de travail quand même, mais je ne suis pas du tout contre une relecture des œuvres, une relecture féministe avec un regard féministe, parce que si l'on regarde bien, si l'on fait un peu attention aux histoires, elles sont juste terribles. Le sort des femmes à l'opéra est juste horrible.
Et quand elles meurent.
Elles meurent, elles se sacrifient, elles sont tuées, de toute façon, elles sont impures ou maltraitées. De toute façon, elles meurent. Voilà. Et c'est insupportable au bout d'un moment. Lorsqu'on se met à prêter attention aux paroles et aux histoires, on finit par oublier l'histoire parce qu'on est bercé par la musique. Mais attention quand même, à quoi assiste-t-on la plupart du temps? Au meurtre de nombreuses femmes. Le sort est toujours tragique. Et j'ai maintenant presque un mouvement de révolte. En tout cas, je ne peux plus aller... je vous disais que j'y allais moins ces dernières années, mais de toute façon, c'est parti bien avant. Mouvement de révolte devant les multitudes d'histoires dans lesquelles les femmes sont maltraitées. C'est très insupportable. Alors, je sais que certains ont voulu réécrire, même là, changer la fin de la bohème et que...
De Carmen.
Oui, de Carmen, oui, bien sûr.
De Carmen et de Bizet.
C'est juste épouvantable de faire ça, on ne touche pas aux œuvres. Non, mais je ne vois pas pourquoi on s'interdirait d'imaginer d'autres histoires, d'autres fins, d'autres sorts pour les femmes. Je suis très favorable à ça. Et ce qui se passe dans le domaine de la culture de façon générale pourrait être fait dans le domaine de la musique aussi. Oui, où écrivons d'autres œuvres et mettons en avant davantage les femmes.
Alors Annick Cojan, le temps presse, mais je vous laisse le choix de cette dernière musique. Vous avez choisi d'écouter Joan Baez. Pourquoi ?
Oh, Joan Baez, c'est ma star absolue, avant même toutes les divas dont nous pourrions parler, qui sont pourtant prodigieuses. Mais
vous l'avez rencontrée ?
Oui, à plusieurs reprises, et Joan Baez, je crois, m'accompagne depuis mon enfance. Je l'avais en poster avec sa guitare lorsque j'étais adolescente dans ma chambre. J'ai appris à jouer de la guitare avec ma correspondante irlandaise qui chantait comme Joan Baez, avec une pureté de voix extraordinaire. Là aussi, ça pose la question du don, d'ailleurs. Et quand je lui demande, je ne serais pas arrivée là si, elle dit, si je n'avais pas eu ce don de Dieu, alors elle aussi dit Dieu. Bon, voilà. Et la volonté d'en faire quelque chose et de l'offrir, c'est une responsabilité. Quand on a un tel don, qu'est-ce qu'on fait de cette voix? Eh bien, on l'offre. Et elle l'a mis aussi au service de nombreuses causes. Elle aussi a joué pour de très nombreux combats, a marché. Elle avait 20 ans, elle faisait de la une du Time Magazine, mais aussi elle accompagnait Martin Luther King dans ses marches dans le Grand Sud. Elle était près de lui lorsqu'il y a eu la grande marche à Washington et son grand discours « I have a dream ». Joan Baez était derrière Martin Luther King. Et puis elle est allée au Vietnam et puis elle a chanté dans tous les pays à dictature d'Amérique latine, etc. Et là, sur Facebook, elle poste régulièrement des chansons anti-Trump, donc elle continue le combat à sa façon. Et 70 ans passés, elle a un peu plus raccroché la guitare pour ses tournées mondiales. Mais malgré tout, je trouve que c'est une artiste extraordinaire qui témoigne de notre temps, qui montre de la solidarité, de la générosité. C'est une grande femme, une féministe aussi. Donc ça me fait à nouveau penser à Gisèle, une femme qui s'est toujours exprimée avec immensément de liberté. Et je la trouve admirable, oui, vraiment. Joan Baez est ma star.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho traba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve cindades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Gracias à la vida, Joanne Baez. Merci à vous. Merci à vous, Annick Cogent, d'être venue parler de musique ce matin. Grand merci, merci aussi à Manuel Couturier à la technique, Marie Gros à la réalisation, Marine Decamp pour les archives INA et Marie Ferdinand pour les recherches et la documentation et la mise en ligne. La semaine prochaine, une autrice sera à ce même micro, Lola Lafont, pour son livre Chavuré, paru chez Actes Sud. Bonne semaine à vous.
À réécouter sur francemusique.fr.